un placeur va vous apporter une Bible tournée dans Matthieu 27. Puisqu'on va regarder le passage, c'est bon que vous puissiez déposer les regards directement sur le texte. Est-ce que quelqu'un aurait besoin qu'on lui apporte une Bible? Soyez pas mal à l'aise. Juste lever la main. Ça va? Matthieu chapitre 27, et on va aller ensemble au verset 45. Quelques petites choses que je voudrais mentionner avant. On l'a mentionné déjà, on essaie de se servir un petit peu de Facebook, tout ça, pour vous aider à afficher votre foi, à inviter des gens, et puis, bon, peut-être qu'à un certain moment donné, j'irai trop loin. Mais ça représente vraiment le passage que je prêche ce matin, je peux vous le dire. Ceux qui sont sur Facebook, je vais vous expliquer quelque chose, spécialement les jeunes. Je pense que vous ne connaissez pas ça, il faut que je vous explique les jeunes. Quand vous recevez quelque chose que je publie sur mon mur, si vous faites partager, tous vos amis vont recevoir exactement ce que j'ai publié sur mon mur. Et vous avez une opportunité en or simplement de vous afficher. Et donc, je m'adresse à tout le monde. Je vous encourage, lorsque vous recevez cette publication-là qu'on fait chaque semaine maintenant, tout simplement faire partager à côté de l'item. Et puis, tous vos amis vont le voir apparaître sur votre mur, incidemment sur leur mur aussi. Ils vont voir dans leur fil d'actualité, c'est-à-dire. Et Dieu s'en sert, même si les gens ne font pas des commentaires. Vendredi soir, on recevait chez nous la cousine d'Estan, des gens qu'on aime énormément, Sophie et Dag, qui vivent au Danemark, très, très loin de nous. Et Sophie fait partie de ma liste d'amis sur Facebook, tout ça. Et j'ai jamais de commentaires, évidemment, sur mes multiples, juste mes petites pensées, ma foi, mes versets que je mets là-dessus. Je ne reçois jamais un commentaire de Sophie nécessairement. Elle ferait plutôt un commentaire sur « Wow, belle photo de famille ». Et on les aime tellement. Puis on a prié avant le repas. On était avec leurs deux filles. Puis ils sont au Danemark. Hein. C'est une société, c'est une culture très, très socialiste, très profondément athée, beaucoup plus que ce qu'on connaît ici. Et on a prié. Puis je savais qu'ils avaient probablement les quatre les yeux ouverts. Leur petite fille, c'est comme on va prier. C'est quoi cette affaire-là? Puis on termine. Puis là, j'étais seul avec Esther. Les enfants étaient au camp des boulots. Esther et moi, on dit « Amen ». C'est le silence. Puis honnêtement, ça brise mon cœur. J'aimerais tellement ça qu'ils aient la foi en Christ, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Mais je sais qu'à travers Facebook, tranquillement, on est en train de semer. Quelques exhortations pour l'Assemblée aussi pour cet été. Je veux vous encourager. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a adapté l'horaire pour l'été. On commence un petit peu plus tôt à 9h30. J'espère que vous l'avez remarqué, que vous arrivez plus tôt. Mais c'est à ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on l'a adapté pour l'été afin qu'on puisse s'inviter les uns les autres, qu'on puisse avoir des barbecues. Cet après-midi, il y a quelque chose que personne ne suit sur la planète, je vous le dis, si vous ne le savez pas, à 2h à la télé. Super bon temps pour inviter des amis, des gens de l'église, pour inviter des amis du voisinage. Alors, faites des barbecues cet été. Invitez vos voisins avec des amis de l'église. Mêlez tout ça, puis laissez le Saint-Esprit faire quelque chose avec ça. D'accord? Profitez-en, invitez-vous. Et invitez vos voisins, mêlez les amis chrétiens avec les amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, il va faire des belles choses avec ça. Je veux aussi vous exhorter à ne pas négliger les rassemblements du dimanche matin. Je sais qu'on fait des activités en famille, tout ça. Je vous avoue que je travaille très fort dans mon cœur pour ne pas avoir de tendance légaliste. Et vraiment, c'est un effort. Vous voyez, ce matin, j'essaie de ne pas être légaliste. Mais en même temps, vos enfants ont besoin de vous voir à l'église le dimanche matin. Vos enfants ont besoin, si vous êtes en vacances, trouvez-vous une assemblée, allez dans une assemblée, vos enfants ont besoin de le voir, votre foi a besoin de ça. Ce sont des rassemblements qui sont importants. On a même le plaisir d'avoir Diane, que je viens juste de voir en arrière. Salut Diane, on est content de t'avoir avec nous. Donc, exhortation, dimanche matin, ne négligez pas de venir à l'église et si vous êtes en vacances, de vous trouver une assemblée. Je veux vous encourager aussi à être fidèle avec nos objectifs qu'on s'est donnés au niveau des offrandes, de la dîme. l'Église n'est pas toujours consciente du genre de serviteur que Dieu a donné à cette assemblée. Et Alexandre Marquis, qui dirigeait tout à l'heure ici en avant, c'est un jeune homme, mais c'est un homme de Dieu. Et Alex, assez rapidement au printemps, voyant qu'on avait encore un peu de retard avec les offrandes, tout ça, il m'a dit, écoute Yannick, peut-être, vous savez qu'on a voté de l'embaucher en septembre, 3 jours/semaine. Alors, il a dit, peut-être qu'on devrait attendre janvier, parlant avec les gars. On a vérifié avec les gars du conseil, on a vérifié avec notre trésorier, tout ça. Tout le monde veut aller de l'avant, mais voyez-vous, il est prêt à patienter, il est prêt à attendre le moment de Dieu. On veut poursuivre ces objectifs-là et ça demande votre fidélité. D'accord? Devant le Seigneur, vous allez devant Dieu, vous dites, Seigneur, on a à cœur de voir l'œuvre avancer. Vous résolvez un montant devant le Seigneur, vous êtes fidèle à ça, et Dieu va bénir et Dieu va pourvoir pour la différence. Dernier encouragement, je veux vous encourager cet été à prendre du temps avec le Seigneur en famille. D'accord? Ouvrir la Bible, lire un chapitre de la Bible, prier ensemble, sortez votre vieux célébrons Dieu, chantez un cantique en famille, faites-le en couple, faites-le cet été. Tous les jours, simplement 10 minutes, ouvrez la Bible. J'ai pris la décision hier, j'étais en train de réfléchir, de prier, tout ça. Et cet automne, on va faire une petite série, 2-3 dimanches sur qu'est-ce que c'est prendre du temps avec Dieu en famille, le faire régulièrement. Les chrétiens font ça depuis des siècles, d'accord? Alors, je veux vous exhorter à le faire cet été. Profitez du petit ralentissement qu'il y a dans l'horaire pour trouver ce 10 minutes par jour et prendre du temps en couple, en famille, avec des amis, ouvrez la Bible, priez, chantez des cantiques. Vous avez besoin de vous nourrir et de bénir Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie tout au long de la semaine. D'accord? Tournons ensemble dans Matthieu 27, 45 à 56 et je vais en faire la lecture. Jésus sur la croix, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, Jésus sur la croix, la fin est imminente. Et Matthieu nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie !» Et aussitôt, l'un d'eux accourut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver !» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, je ne comprendrai jamais vraiment ce qui s'est passé, ce que tu as expérimenté sur cette croix. C'est au-delà de mes capacités et personnellement, je n'ai jamais été près de Dieu comme tu étais près de ton Père. Ces choses, Seigneur, sont loin pour moi et sont distantes. Et pourtant, Seigneur, je veux revenir constamment à ce moment de tourment et de ténèbres où tu t'es écrié, « Mon Dieu, pourquoi ?» m'as-tu abandonné? Seigneur Jésus, je veux te demander de parler à nos cœurs ce matin. Ouvre notre intelligence afin que ces paroles prennent sens dans nos vies, Seigneur. Que ceux d'entre nous qui te connaissons, Seigneur, soient à nouveau touchés, poussés en avant, remplis d'action de grâce, remplis d'espérance malgré les moments difficiles de la vie, les yeux fixés sur ce geste de pure grâce et de pure bonté que tu as accompli à la croix. Et que ceux d'entre nous qui demeurent indifférents, qui considèrent ces choses comme un moment, un point dans l'histoire, peut-être même une fable quelconque, Seigneur, viens ouvrir les yeux de leur cœur ce matin, afin qu'ils saisissent que ces paroles sont pour eux une source de vie pour celui qui croit. Viens me remplir de ton esprit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai tellement besoin de ta grâce. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Vous avez déjà entendu des Québécois dire ça, maudite vie? Il y a même d'autres variantes. J'ai décidé d'arrêter là, juste par pudeur un petit peu. On est quand même en église, n'est-ce pas? Mais vous savez, il y a beaucoup plus de vérité qu'on le pense dans une expression comme celle-là. Il y a beaucoup plus de vrai qu'on a tendance à le croire. Quand une personne laisse tomber, quand un Québécois laisse tomber une expression comme celle-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la vie est difficile, que la vie est dure, que tout semble aller mal. En français, c'est tough. Il est en train parfois même de dire, on dirait que tout s'enligne pour aller mal, que les choses vont de mal en pire, que ça continue et on dirait même parfois qu'il y a quelqu'un qui s'acharne à enligner les choses pour qu'elles soient difficiles. Vous connaissez la chanson de Richard Desjardins, Jenny? Ça vous dit quelque chose? C'est une belle chanson, c'est vraiment une belle chanson. Même si Richard Desjardins exprime encore une fois son incrédulité face à la parole de Dieu, ça parle d'un gars qui a une vie difficile et puis il dit, cette vie-là, je l'ai de travers. C'est bien ça le mystère. Tout est difficile. Et c'est un peu ça, cette expression québécoise qui dit c'est tough et ça continue à être difficile. Maintenant, on perd de vue, évidemment, avec notre culture religieuse québécoise, catholique, on perd de vue le fait que ce terme-là est un terme religieux. Maudire, malédiction, maudit. C'est un terme religieux, c'est un terme qui nous parle d'une intention de Dieu à frapper un individu, à condamner, à juger un individu. Et le passage que je viens de lire ce matin, dans ce passage-là, on voit une vie, on voit un homme à un moment précis où il a été littéralement maudit de Dieu. La vie maudite dont je vous parle premièrement ce matin, c'est celle de l'homme qui est sur la croix en haut de l'image. Et en lisant le passage, on sent la noirceur. D'accord? C'est pas juste la croix des hommes qui font quelque chose. Il y a des éléments de la nature qui viennent confirmer ce moment-là. C'est assez littéral lorsqu'on parle de ténèbres, de noirceur. Vendredi, vous étiez dans l'orage avec nous. J'étais dans mon bureau lorsqu'à un certain moment donné, c'est devenu sombre. Et moi, j'avais passé ma semaine à lire le texte. Alors, imaginez pendant 3 heures de temps, les nuages, le ciel qui s'assombrit. À un certain moment donné, croyant, non-croyant, tu t'arrêtes. Et tu es là devant cet homme qui est là sur cette croix. Cet homme que tout le monde conçoit comme étant un juste. Et tu dis, il y a quelque chose qui se passe actuellement à ce moment-ci. Le texte transpire de ce sentiment de jugement, de ce moment de noirceur, ça sent la malédiction. Matthieu nous dit que de la 6e à la 9e heure, 3 heures de temps, il y a eu des ténèbres sur la terre. Et puis au moment où Jésus mourut, la terre trembla, des rochers se fendirent. Les éléments de la nature sont en train de mettre un sceau, de dire un amen sur ce qui est en train de se produire sur cette croix. Qu'est-ce qui est en train de se réaliser? qu'est-ce qui est en train de s'accomplir à ce moment-là? Les ténèbres qui viennent assombrir, il y a quelque chose de grand, de surnaturel, d'important qui est en train de se réaliser. Et puis, il y a ce cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et peut-être que ce cri-là ne veut absolument rien dire pour vous. Si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vous ne connaissez pas le sens de ce qui est en train de se produire ici. Et peut-être même, si vous connaissez toutes ces choses-là, puis comme moi, vous fréquentez une église évangélique depuis votre petite enfance, à un certain moment donné, ces paroles-là deviennent comme une pub que tu croises lorsque tu es sur l'autoroute. Ça n'a plus aucune profondeur. Alors peut-être que ça ne veut rien dire pour vous et vous ne voyez pas ce qui est en train de se réaliser. Mais il faut savoir que cet homme, Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans, n'était pas un homme comme tous les hommes. Il n'était pas un homme seulement comme vous et moi. Ce Jésus de Nazareth était très près de Dieu. Vous savez, vous et moi, il y a des moments où on se sent plus près de Dieu, puis il y a des moments où on sent que Dieu est loin de nous. Et ceux qui croient, ceux qui sont croyants ici ce matin, vous savez de quoi je parle. Il y a des moments où on a le sentiment que Dieu est plus loin de nous. Et souvent, même avant de connaître Jésus-Christ personnellement, on vivait déjà ce genre de sentiment intérieur où on sent que Dieu est près ou Dieu est loin de nous. Maintenant, dans le cas de Jésus de Nazareth, c'était différent car il était extrêmement près de Dieu. Et il avait toujours été près de Dieu. Cet homme, Jésus de Nazareth, vivait une intimité avec Dieu, une complicité avec le Père céleste qui était absolument unique. Et plus tôt dans son ministère, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus, à un certain moment donné, commence à prier. Voici comment il l'exprime. Je vais vous lire Matthieu 11, versets 25 à 27. Je vous fais la lecture. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, il est en train de s'adresser à Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Puis Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, en parlant de lui-même, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus avait cette conscience à l'intérieur de lui-même qu'il vivait une intimité avec Dieu absolument unique. Et ça, il le vivait depuis toujours. Il vivait cette intimité. Le Père, lorsque le Père voulait faire quelque chose, il le révélait au Fils et le faisait à travers le Fils. Il y avait cette intimité absolument unique avec Dieu. Jésus, de toute éternité, le Fils de Dieu, n'avait jamais vécu de bris, de séparation. Vous savez, quand nous, tu passes par une épreuve, tu vis un moment difficile, puis tu as l'impression que Dieu n'est tellement pas là. Il n'est pas réel. Tu es dans ton épreuve, puis c'est comme il n'est pas là. Puis là, même, tu vas aller plus loin, tu vas dire, oui, mais même, est-ce qu'il existe? Parce que là, je le sens vraiment pas là. Jésus n'avait jamais vécu cela. Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, l'apôtre Jean, pour présenter Jésus, pour refléter cette intimité avec Dieu, voici ce qu'il dit dans Jean 1:1. C'est l'apôtre Jean qui parle de Jésus et il appelle la parole de Dieu, le Logos, d'accord? Vous allez le voir après avec un autre verset. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et Jean est en train de parler ici de Jésus, du Fils de Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et le commencement, on parle ici du commencement de la terre, du commencement de l'univers, du commencement de la création. Au verset 14, voici ce qu'il dit. C'est ça qui nous amène à dire que c'est bien de Jésus dont il est question. Verset 14, il dit, « Et la parole a été faite chair. » Elle est devenue homme, elle est devenue un être humain. « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand les apôtres étaient en relation avec Jésus, entendaient les paroles qui sortaient de sa bouche, voyaient les gestes qu'il posait, Et certainement, après avoir médité sur son arrestation et la croix des années plus tard, à voir la grâce particulière qui était avec cet homme-là, à travers tout cela, ils avaient cette conviction qu'ils avaient vu devant leurs yeux le Fils de Dieu éternellement en communion avec Dieu. Cet homme n'était pas qu'un homme comme vous et moi. Il vivait depuis toute éternité. Avant son incarnation, il était fils de Dieu et il vivait une intimité parfaite avec Dieu. Et on arrive à ce moment-là où Christ va s'écrier et il va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui qui avait été toujours parfaitement en intimité avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a 2000 ans, cet être qui était juste, qui était droit, qui était bon, les juges, ceux qui l'ont jugé, Pilate lui-même le déclare comme un juste et voit bien qu'il n'y a pas de raison qu'il se retrouve sur cette croix. Pourquoi est-ce que cet être-là se retrouve sur la croix et lance ce cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et la réponse est assez simple. À ce moment précis, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le juste, a été maudit. À ce moment précis, Jésus de Nazareth a été placé sous la malédiction de Dieu. Sur cette croix, il est maudit à ce moment-là. Voilà la maudite vie dont je vous parle. Celle qui a été vraiment maudite. Une malédiction, c'est une condamnation prononcée par Dieu. Une personne est maudite quand Dieu a déterminé de frapper cette personne. Et il faut comprendre l'étrangeté de la scène que la Bible décrit. Vous savez, il y a des gens qu'on souhaiterait que Dieu les maudisse. Il y a des gens littéralement. On voudrait voir la malédiction de Dieu venir sur eux. Il y a des gens pour qui on voudrait voir le gros doigt de Dieu se promener au-dessus d'eux, puis tout d'un coup, bam, les frapper. Pensez à Hitler. J'ai écouté dernièrement avec Esther, j'ai commencé à écouter avec Esther un documentaire sur la traque des nazis. Esther est faite pas mal plus forte que moi pour ces affaires-là. On a écouté comme la moitié, puis là, il fallait aller se coucher, puis... Honnêtement, j'aurais couru à la toilette, là, parce qu'évidemment, il y avait plein d'éléments documentaires qui nous montraient les traitements, puis comment ils bâtissent les preuves, puis tout ça pour traquer ces gens-là et les reconnaître coupables et tout ça. Et puis, je vous fais une confession. En fait, je fais une confession à ma femme. J'ai effacé le reste du documentaire. Je ne suis pas capable de le continuer. Écœuré. Voyez-vous, il y a des gens... Comme ça, tu voudrais voir le gros doigt de Dieu qui vient, bam, il les frappe. Et pensez à ces sadiques, les pédophiles qui se promènent et qui vont abuser des enfants. J'ai déjà partagé il y a quelques années, dans notre quartier, les enfants allaient à l'école du quartier. Puis là, les policiers sont venus faire des annonces à l'école. Ils ont préparé les enfants, s'il y a un monsieur qui vous approche, tout ça. Puis nous, on a eu des informations. Et je vous le dis, je me rappelle me promener. Je m'en allais en voiture et j'ai fait des imprécations. Littéralement. Vous savez, c'est quoi les imprécations? J'ai fait deux prières. J'ai dit, Seigneur, s'il doit se convertir, sauve-le tout de suite. Autrement, élimine-le. Viens là, trouve-le. Tu sais d'où est-ce qu'il est? Frappe-le. À moins qu'il se convertisse vite, vite, vite. 5 ans de prison, une petite thérapie. Va jouer au parc avec les enfants. Non, non, non. Frappe-le. Alors, il y a des gens... C'est comme, oui, c'est la justice, c'est la grâce. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais là, on arrive là, puis il y a ce Jésus qui est là, puis ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est un juste. Ceux qui l'ont jugé le regardent, puis ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et les soldats, vous comprenez que le centenier avec les soldats, c'est la gang qui l'ont battu. Lorsqu'ils vont rendre l'âme, ils vont être saisis de crainte parce qu'ils réalisent qu'ils ont battu un juste, non seulement un juste, mais certainement le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus est sur cette croix, le ciel qui devient ténèbres, la terre qui tremble et son cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que Jésus a été maudit à ce moment-là. Parce que Jésus a été placé sous la malédiction de Dieu. Des années plus tard, quand les apôtres vont enseigner à des jeunes chrétiens comment comprendre ce que Jésus a fait sur la croix, c'est le langage de la malédiction qu'ils vont utiliser. Littéralement, je vous lis dans Galates 3, les versets 13-14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, comment il analyse ce qui se passe sur cette croix, d'accord? L'apôtre Paul dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Alors, des années plus tard, quand les apôtres veulent enseigner les jeunes chrétiens à comprendre qu'est-ce qui se passe là, au-delà d'un homme qui meurt, qu'est-ce que Dieu est en train de faire là sur cette croix, ils utilisent le langage de la malédiction. Christ a été fait malédiction pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est encore l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens 5, 21, je vous le lis. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il s'est opéré un transfert à ce moment-là, et ce juste, que tout le monde reconnaissait comme un juste, s'est retrouvé à ce moment-là maudit de Dieu. Celui qui était sans péché, et vous irez lire les évangiles si vous en doutez encore. Tout d'un coup a été fait péché. Christ a été littéralement maudit. Et ce cri que Jésus échappe, on ne pourra jamais vraiment comprendre ce qui se passe là. Ce moment où Jésus-Christ sent que le Père se retire de lui, et honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En termes techniques, on appelle ça ontologiquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, là. Mais ce que je sais, c'est que ce que lui a expérimenté, clairement, c'est que le Père s'est retiré de lui. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de péché. Et au moment où Christ devient péché, le Père s'est retiré de lui. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais surtout, je ne pourrais jamais vraiment le comprendre. Vous savez, il y a des choses qu'il faut vivre pour les comprendre. Si vous avez passé par une méga dépression, il faut l'avoir traversée pour avoir ce sentiment d'incapacité complète où tout est comme impossible à accomplir, ou perdre un être cher, ou perdre un être aimé, ou perdre un enfant. Il y a des choses, il y a des peines d'amour intenses que des gens vivent et il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Mais moi, je ne pourrais jamais vraiment comprendre, ni vous ni moi, ce qui s'est passé là, parce que personnellement, je n'ai jamais été près de Dieu comme Jésus-Christ. Ça a dû être absolument abominable de vivre cette séparation, cette fissure dans cette intimité, dans cette complicité qu'ils avaient depuis toujours. Et personnellement, je ne pourrais jamais saisir ce qui s'est passé là. Jésus n'avait pas péché et il a été fait péché. Jésus, qui était aimé du Père comme aucun autre être dans l'univers, a été maudit par le Père. Et remarquez que Jésus l'a fait volontairement. C'est important de le savoir quand vous commencez à faire connaissance avec le christianisme. Sylvain Delièvre avait une chanson, Père Abraham, et il disait, toi, il s'adresse à son père, puis il dit, toi, papa, tu n'aurais jamais fait ce qu'Abraham a fait à son fils, être prêt à sacrifier son fils. Et par le fait même, Sylvain Lelièvre exprime le fait qu'il n'a absolument pas saisi l'Évangile. Christ s'est offert volontairement. C'était un acte volontaire. Tournez avec moi dans Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Jésus, en parlant de lui, en s'appelant le Fils de l'homme, dit « Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » On l'a chanté tout à l'heure. donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voyez-vous, je pourrais dire ça. Le but de tout le ministère de Jésus-Christ, c'était de se rendre à cette croix et d'être maudit. Tout son passage sur la terre concourait à un seul moment précis. Le moment où il serait fait péché, où il recevrait la malédiction de Dieu. C'était l'objectif de sa course sur terre. Se rendre à cette croix et être maudit par Dieu. Pourquoi cette malédiction? Pourquoi une telle violence envers Jésus-Christ? Je reviens à l'expression québécoise « maudit de vie ». Je l'ai dit, il y a pas mal plus de vrai qu'on pense dans une telle phrase, dans une telle expression. C'est une expression qui est remplie d'amertume, de souffrance, de frustration. Celui qui est en train de dire ça a l'amertume dans l'âme. C'est souvent des gens qui souffrent beaucoup ou c'est dans un moment de souffrance. Et admettons-le, il y a des gens qui ont des vies assez difficiles, où les épreuves de la vie se multiplient et n'arrêtent pas. Des fois, c'est plus léger. Ça peut être une difficulté au niveau de l'emploi, mais qui entraîne vraiment des problèmes majeurs dans notre vie. Ça peut être la perte d'un être aimé, une maladie qui nous gâche la vie, un divorce, des conflits dans la famille qui perdurent, qui détruisent les relations. Il n'y a pas d'harmonie ou au travail encore. Souvent, c'est les conséquences de nos choix. Parfois, ce n'est pas du tout les conséquences de nos choix à nous. Parfois, ce sont les conséquences des choix des autres autour de nous qui viennent simplement s'abattre sur nous. Mais c'est une espèce de pressentiment que les choses ne tournent pas rond. Celui qui laisse tomber cette expression « maudite vie », c'est un espèce de pressentiment intérieur qui dit « les choses ne tournent pas rond ». On dirait que les circonstances de la vie, ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon entourage, ça ne va pas rondement, ça ne va pas comme ça devrait aller. On dirait que le sort s'acharne. Et si ce n'est pas dans les conflits, ce sera la maladie, ce sera la mort. Ceux qui ne croient pas dans la Bible vont parler de karma, de destin, de maudite vie. Et parfois, on vit cette expérience-là sur un plan individuel. Mais honnêtement, si on allume la télévision, on étend cette expérience-là assez rapidement à la terre entière. Et il y a bien des gens qui ne sont pas prêts à explorer la question. Ça fait beaucoup trop peur. Je vous l'ai dit, je n'ai pas fini le documentaire. Je l'ai effacé, c'était insupportable pour moi. Mais lorsque j'allume mon poste de télé et que je regarde comment les choses se passent sur la terre, il y a quelque chose qui cloche avec l'humanité, tableau. Il y a de quoi qui ne marche pas. Et c'est vrai au niveau des relations entre les gens, c'est vrai au niveau des guerres. Mais même lorsqu'on arrive dans une belle petite société où on arrive comme à être assez ordonné pour dire, en principe, si je laisse ma porte débarrée, je ne devrais pas avoir un gars qui rentre avec un AK-47 dans ma cuisine tantôt. Et donc, on vit dans une société qui est relativement ordonnée. Les choses sont quand même pas pires, tu sais. Tu te dis, les stats sont bonnes. Mon fils ne devrait pas se faire tuer aujourd'hui. Et pourtant, on regarde ce qui se passe sur la terre et le fait qu'on vit dans une espèce d'indifférence, une incapacité à venir en aide à toute une autre portion de l'humanité qui souffre, qui meurt, qui s'entretue aussi. Puis là, on regarde ce que tout ça est en train de faire avec la pollution. Puis il y a une espèce de sentiment qui est là. Il y a de quoi qui cloche. Alors, vous voyez, on le vit sur un plan individuel, mais on le vit aussi à l'échelle planétaire. Bien des gens le pressentent. Plusieurs ne veulent pas le voir, ne veulent pas l'explorer, mais c'est là. Et vous savez quoi? La Bible nous donne une explication à cela. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu a prononcé un jugement sur l'être humain. Dieu a prononcé un jugement sur l'humanité. Il y a de cela très longtemps, Dieu a prononcé une malédiction sur l'humanité. Parce que Dieu avait créé toute chose parfaite. Et honnêtement, la terre est magnifique. Vous allez prendre des vacances cet été. Juste hier matin, je suis allé au camp des Bouleaux, je m'en allais chercher les enfants. J'étais à peu près seul sur la route à 7h30, puis je voyais la nature. C'était tellement, tellement beau. Puis il y avait de la brume qui se levait des montagnes. C'était fantastique. Alors Dieu a créé tout cela avec une beauté, une majesté extraordinaire. Et l'homme a décidé de maudire Dieu en face, de rejeter Dieu, de cracher au visage de Dieu. Et Dieu a décidé que les choses ne continueraient pas ainsi éternellement. Dieu avait créé l'homme, Dieu avait créé l'humanité pour que nous le glorifions et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Les desseins de Dieu étaient de bons desseins pour l'être humain. Une boule extraordinaire où vous allez vivre et vous allez vivre en harmonie. Vous allez me ressembler, vous allez vous aimer les uns les autres. Et l'homme a décidé de rejeter Dieu, de mépriser Dieu, de cracher à la face de Dieu et de faire violence à son prochain. Et Dieu a maudit l'humanité. Il a prononcé un jugement. Il a décidé que l'humanité ne continuerait pas ainsi éternellement, à le mépriser et à s'entretuer. Et ce pressentiment qu'on a, ce sentiment qu'on a de voir que les choses ne tournent pas rond, ont une raison. Les Écritures nous disent que Dieu a prononcé un jugement sur l'humanité. Nous le vivons à l'échelle individuelle dans nos propres vies, lorsqu'on voit qu'on est incapable de bâtir des relations saines et qu'on détruit tant de choses qu'on aime et tant de gens qu'on aime. On le voit par nos vices cachés dans nos vies, les choses qu'on ne veut pas avouer. On le voit dans nos vies par la maladie aussi. Les scientifiques essaient de comprendre pourquoi on entre dans ce processus de dégénérescence. Il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là aussi. Et on est là sur la terre, puis on a une boule magnifique, puis on est en train de la brûler, mes amis. Puis on ne sait pas comment renverser tout ça. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu a dit que l'homme ne continuerait pas éternellement comme cela. Et il a prononcé une malédiction sur l'humanité. Mais Dieu est bon. Celui qui a créé cette boule magnifique, qui a créé ces êtres comme Dahlia, qui est venue en avant tout à l'heure, tellement, tellement gracieuse, tellement belle. Ce Dieu-là est le Dieu des secondes chances. Il est le Dieu de grâce. Et ce qu'on est en train de voir ici sur la croix, c'est la seconde chance qui est offerte à chacun d'entre nous. Je vais vous demander de tourner avec moi dans le livre de Romains, s'il vous plaît. Romains 3, 21 à 26. Ça va être mon dernier passage ce matin. Voyez-vous, Dieu veut lever la malédiction qui repose sur nous. Dieu veut lever la malédiction qui repose sur Yannick. Dieu veut lever la malédiction qui repose sur l'humanité. On parle d'un Dieu juste et saint qui a jugé une humanité qui prend plaisir à poursuivre ses vices, à se faire du mal les uns aux autres et à mépriser Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, veut lever la malédiction qui repose sur nous. Romains 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Comment un Dieu juste pourra-t-il lever la malédiction qui repose sur des êtres qui lui crachent au visage et qui sont égoïstes? Sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le langage de ce que je vous apporte ce matin, tous sont sous la malédiction de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière, écoutez bien ceci, à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Dieu. La croix, c'est la solution à l'énigme éternelle. Comment Dieu peut-il lever la malédiction qui est sur moi, qui est un juste jugement divin? Et tout à l'heure, je vous l'ai illustré avec des gens qu'on voudrait voir Dieu maudire. Moi qui suis tellement tout croche, égoïste, je suis capable de discerner la bonne chose pour Hitler. Comment Dieu va pouvoir déclarer un être comme moi juste? Comment est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il va falloir que le juste vienne et qu'il reçoive à ma place la malédiction de Dieu. Et savez-vous ce qu'il y a d'extraordinaire? Dieu a agréé, Dieu a accepté ce que Christ a fait à la croix et nous le voyons dans ce passage. Parce qu'au moment où Christ a rendu l'esprit, au moment où il est mort, à ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et simplement pour que vous le sachiez, ce voile représentait une séparation, un lieu saint où Dieu réside qui nous séparait de lui. Et à ce moment-là, par un miracle unique à Dieu, ce voile s'est déchiré de haut en bas, nous disant que nous pouvons maintenant avoir accès à Dieu, que la relation peut être rétablie avec Dieu. Et des croyants qui étaient décédés ont ressuscité d'entre les morts, comme Christ va ressusciter 3 jours plus tard. Et si je comprends bien ce qui s'est passé, il y a eu d'autres résurrections, probablement des croyants qui sont allés eux-mêmes déjà partir et qui sont apparus à quelques personnes à ce moment-là. Mais par ces signes, Dieu est en train d'agréer le sacrifice de Jésus-Christ. Ultimement, Dieu a agréé son sacrifice en le ressuscitant d'entre les morts. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Les soldats qui étaient là, les centeniers, se sont exclamés, saisis de frayeur. Et ils ont dit, cet homme que nous avons battu, que nous avons crucifié, c'était vraiment le Fils de Dieu. Il ne méritait pas de se trouver là. Mais Jésus-Christ est venu vivre une vie maudite, afin que la malédiction qui repose sur toi, sur moi, puisse être levée. À celui qui croit en Jésus-Christ, est-ce que tu désires dans ton âme, alors que tu sais, tu vis la vie, et il y a de ces moments où tu pressens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta relation avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, tu sens que ce Dieu est tellement loin. Cet être infini et mystérieux est loin de toi. Est-ce que tu désires être réconcilié avec Dieu? Pour cela, il faut que le Dieu juste lève la malédiction qui repose sur toi et Christ s'est offert pour la prendre à ta place. Ce qui t'est demandé, c'est de croire dans son sacrifice. Reconnaître que tu es pécheur, privé de la gloire de Dieu, te tourner vers Jésus-Christ et dire, « Veux-tu prendre mes péchés, mes fautes? Afin que ta justice, ta droiture me soit appliquée à moi. » Et Christ l'a fait volontairement. Est-ce que vous voulez l'annoncer cette semaine, frères et sœurs, ceux d'entre vous qui êtes chrétiens? Allez vers vos voisins, allez vers les amis et dites-leur, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche sur la terre? Est-ce que tu ne le sens pas dans ta vie? Bien, cet être-là mystérieux qui est là t'a jugé déjà parce qu'il connaît chacune des actions de ton cœur et de ta vie. Mais il t'aime et il veut lever la malédiction qui repose sur toi. Il veut te donner une vie nouvelle et il veut t'inviter dans la résurrection pour la vie éternelle. Allez l'annoncer cette semaine. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Ton Père a agréé ce sacrifice. Tu as pris à ma place la malédiction qui reposait sur moi, Seigneur. Ta vie a été maudite. Afin que la malédiction soit levée. Sois béni, Jésus-Christ. Et Seigneur, je peux dire aujourd'hui, moi, Yannick Etier, comme chrétien, parce que je me suis identifié avec Jésus-Christ, je ne dirai jamais maudite vie. Parce que ma vie à moi est bénie en Jésus-Christ. Et si elle était maudite avant d'être chrétien, Seigneur, elle est aujourd'hui bénie. Et j'attends de toi de belles grâces, Seigneur, dans cette vie et dans l'éternité. Et tout spécialement, Seigneur, la grâce de me savoir réconcilié avec mon Créateur, en paix avec mon Dieu. Je veux bénir ton nom, Jésus-Christ. Amen.